Bonjour à chacun, chacune, ça va là, vous m'entendez? Bon. Si vous n'entendez pas, le Seigneur, il dit qu'il permettra aux sourds d'entendre et aux aveugles de voir. Alors il n'y a pas de problème, ça va se résoudre. La dernière fois, je m'adressais à vous sur ce thème, vous serez mes témoins et vous êtes mes témoins, soulignant que, j'allais dire qu'on le veuille ou non, à partir du moment où nous confessons le nom de Jésus-Christ en disant simplement « je suis chrétien », il ne faut pas oublier que confessant cela, nous sommes témoins. Parce que si nous disons que nous sommes chrétiens, ceux qui nous voient disent ben, « un chrétien, c'est ça ». Et du coup, cette parole, est, grâce à moi, vraiment travaillé cette histoire, beaucoup confessent dans le monde, on dénombre le nombre de chrétiens dans le monde. Ça veut dire que des gens se reconnaissent quand on les interviewe. Dites, vous êtes d'une religion? Oui, je suis chrétien. Eh bien, de dire je suis chrétien, il faut savoir que spirituellement, dans le monde spirituel, il se passe des choses. Parce que le regard de celui à qui on dit ça, dans sa pensée, ça fait naître des choses. Donc, si nous déclarons que nous sommes chrétiens, je dirais c'est solennel. C'est solennel, c'est dire que Christ vit en nous. Alors, pour ça, j'insistais, souvent on dit, on rappelle que Jésus a dit, vous serez mes témoins et puis vous recevrez, oui. Mais effectivement, si l'on dit qu'on est chrétien, alors nous sommes témoins. C'est un fait. Donc, il faut vraiment s'intéresser sur ce qui se passe. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur, j'allais dire, quelqu'un qui n'avait rien demandé et qui, en moins de 3 minutes, est devenu témoin de Jésus-Christ. Et je vous assure, il n'avait rien demandé. Mais néanmoins, comme Jésus s'est intéressé à lui, eh bien, il a été témoin. Je voudrais lire avec vous et méditer un texte que vous connaissez pareil, très très bien, c'est dans Jean 9, c'est la guérison d'un aveugle né, enfin c'est du moins ce que dit le titre de ce chapitre, en tout cas la guérison d'un homme aveugle de naissance. Nous allons lire ce texte et nous allons tirer, en restant assez proche du texte, quelques enseignements. Dans Jean 9 donc, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Nous avons entendu ce texte tout à l'heure de la crucifixion de Jésus, où les ténèbres sont venues sur la terre, et j'y reviendrai. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, » dit Jésus. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyer ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. » Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Alors, je voudrais simplement, ce matin, ce sera quelques pensées, peut-être pas très structurées, mais quelques pensées à partir de ce texte qui, globalement, me touche énormément parce qu'il y a cet homme qui était plongé dans les ténèbres. Et en méditant un peu ce texte, je me dis, je ne sais pas quel âge avait cet homme, mais une chose est certaine, il a eu le temps de rentrer en lui-même. C'était vraiment une pensée qui me venait très fort. On voit dans beaucoup de récits dans la Bible qu'il y a un temps où il faut rentrer en soi-même. Il faut rentrer en soi-même. Je pense au fils prodigue, au jeune fils qui a, dans sa folie, anticipé, pris comme un viol là-dedans, l'héritage de son père, l'héritage qui lui était destiné. Et puis, on sait la catastrophe qu'il y a eu dans sa vie. Et à un moment, il est dit, il rentre en lui-même. Et je suis touché parce que cet homme, cet aveugle de naissance, il était au bord du chemin, il n'a pas du tout couru. Certains sont allés voir Jésus, mais pas lui, là. Et je crois que Jésus savait que le cœur était prêt. Parce que cet homme, il a eu le temps, je crois, toutes ces années, étant des fois, sans être aveugle, on est des fois un peu laissé de côté. Mais quand on est aveugle, encore plus. Et il mendiait, il était assis, il faisait partie du décor, sans qu'il soit vraiment vu des gens, puisque certains se disent, mais attends, c'est bien lui qui était là, on ne l'avait pas bien observé, ils n'arrivaient même pas à le reconnaître, alors qu'il était là depuis des années. Donc je pense qu'il y a quelque chose là, cet homme a eu le temps. Son cœur était prêt, je pense. Alors, la première pensée qui me vient, c'est Jésus vit en passant. Donc, on insiste bien. Bon, Seigneur sait tout. Et il va s'intéresser, il va aller vers cet aveugle de naissance à partir d'une question qui lui est posée par ses disciples qui, en voyant cet aveugle, disent « Qui a péché ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est ses parents ?» On ne va pas développer tout ça, mais c'est incontestable. On sait que les conséquences du péché sont sur l'être tout entier. La mort spirituelle est venue immédiatement après la révolte et le péché d'origine d'Adam et d'Ève, mais on sait qu'elle a entraîné, hein, on peut le voir dans les textes de la Bible, l'âme et le corps se sont débrouillés ensemble, ça a amené aussi la mort physique, on le sait. Et toute la détérioration, l'humanité est marquée par la chute. Donc on voit aussi dans l'Ancien Testament que des malédictions sont attachées. On voit que ne pouvaient pas servir au temple des gens qui avaient des défauts physiques, etc. Donc, il ne faut pas être très surpris de la question des apôtres. Mais là, Jésus va dire, il va mettre ça de côté. Il va mettre ça de côté et il va utiliser cet homme qui, je le rappelle, n'a rien demandé. Il était assis, comme d'habitude, hein, on a vu un aveugle qui lui a acheté sa veste, a couru vers Jésus, etc., a crié. Mais celui-là n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Je crois que ça doit nous rappeler quelque chose. La souveraineté de Dieu, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quelque chose qui est extraordinaire, est-ce qu'on peut simplement recevoir ça dans notre cœur ? C'est lui qui nous a choisis. Franchement, si on s'arrête un court instant, on pourrait se demander pourquoi. Si ce n'est qu'il est venu accomplir, on l'a dit, tout est accompli, pour que notre relation soit restaurée. Mais souvenons-nous de cela. C'est lui qui nous a choisis. La souveraineté, on appelle la prédestination, c'est clair. Il y a vraiment, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Je crois que cette chose-là déjà nous libère. On veut tellement, on proclame tellement l'amour de Dieu. Voilà des faits qui montrent à cause de sa bonté. Qu'est-ce que j'aime cette chose qu'on a encore chantée, à cause de sa bonté. À cause de sa bonté. Ça nous dépasse. Ensuite vient véritablement le miracle. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je crois que ce miracle qui est opéré là, alors le mode opératoire, Jésus ne fait jamais deux fois la même chose. Moi, je n'ai pas toute la révélation sur ce mode opératoire. Il va prendre de la boue, mélanger avec sa salive, je ne sais pas, comme ça, humainement, et cet aveugle, il n'en est pas la première chose humiliante ou pas facile à vivre avec ce handicap qui est dans sa vie. Et là, alors qu'il n'a rien demandé, je vous le rappelle, Jésus s'approche et lui met de la boue sur les yeux et lui dit « Va, lave-toi ». Il lui dit pas « Tu vas voir clair ». Je pense qu'il a cru. En tout cas, on y reviendra, mais il a obéi. Est-ce la boue ? Est-ce pour nous rappeler et enseigner peut-être à ses disciples, n'oublions pas que c'est ses disciples qui lui ont posé une question, que ce qui fait, ce qui nous a rendu aveugles dans la relation avec Dieu. Il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. C'est un fait. Là, nous exposer un fait avec des phrases très courtes, très brèves, qui décrivent une obéissance de quelqu'un qui a plus d'espérance. Quand on est aveugle de naissance, il va être dit plus loin dans le texte, on n'a jamais vu un aveugle de naissance qui puisse voir. Ça me fait penser à Pierre, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Sur sa parole, cet homme obéit. Quelque chose de tout simple à faire, mais pas tout simple à accepter aussi simplement. Il revient et il voit clair. À cet instant, ce fait qui vient de se produire, cet acte de Jésus un peu surprenant, cette poussière, cette boue mélangée à la salive de Jésus, cet homme voit clair. À cet instant, plein de choses vont être ébranlées autour. Tout l'environnement est complètement perturbé. On commence par les voisins. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui te tenait assis et qui mendiait ?» Tout de suite, ça bouge de partout. Les voisins ne sont pas d'accord sur ce qui s'est produit. Ils ne sont plus d'accord d'un seul coup sur l'identité de cet homme. Et ça me fait penser, quand il y a une vraie conversion, tout autour s'est déstabilisé. Alors il y a ceux qui disent « Oh oui, mais lui, il était toujours un peu mystique. Toujours, oh, c'est son truc, c'est son nouveau truc. » Les autres qui disent, « Oh, ça ne durera pas, c'est encore une toquade. Oh, puis il est un peu fragile. Et puis, oui, bah, il a eu tellement de problèmes dans sa vie. Bon, bah, faut bien qu'il trouve un secours dans ces choses-là. Dans ces choses-là. » Et voyez, les premières paroles de cet homme, qui est témoin maintenant. Il est témoin, que voulez-vous ? Jésus est intervenu dans sa vie. À l'instant, il devient témoin. Il n'a pas fait de collège biblique, hein, il n'a rien fait pour l'instant. Mais il devient témoin. Et sa première parole, au milieu de cette confusion, c'est lui, c'est pas lui, mais est-ce qu'il était bien aveugle de naissance ? Dans le fond, si ça se trouve, il nous a menti, si ça se trouve, c'est une mascarade, c'est une imposture. Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, frères et sœurs, il a ouvert sa bouche. Il a dit quoi ? C'est moi. C'est tout. C'est tout. Voilà son témoignage. C'est moi. Alors le trouble continue. Mais comment il a fait ? Comment il a fait ? Et voyez-vous, il va continuer. De nouveau, il va ouvrir la bouche. Je soulignais dans le texte ce témoin qui commence par deux mots, « c'est moi ». À la fin de notre récit, il fait quasiment un exposé théologique. Mais s'il n'avait pas commencé par dire « c'est moi », resituer cette scène de cet homme qui depuis des années est là à mendier parce que évidemment le handicap entraîne, alors là, ipso facto, déjà ceux qui n'ont pas de handicap, il n'y avait pas beaucoup de riches, mais alors celui qui a un handicap, c'est fini pour lui, quoi. Donc depuis des années, il est dans la dépendance des hommes, dans le supportant le mépris exprimé et sans doute le mépris de l'ignorance, de passer devant quelqu'un qui fait partie du décor. Eh bien, il dit, c'est moi. Oui, c'est moi, cet homme qu'il ne connaît pas encore. Hein. Il a mis de la boue et j'ai obéi à cet homme. Et là, maintenant, on lui demande comment ça s'est fait. Ben, il dit tout simplement, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi, point. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Le témoignage de ce que l'on a saisi, de ce que Dieu a fait pour nous, ni plus, ni moins. combien de fois on est tenté d'expliquer, de convaincre avec, bien souvent, une sagesse humaine. Là, il dit simplement ce qui s'est passé. On voit quelque temps, je crois que c'est Daniel qui nous parlait de cet homme, de ce général, à qui le prophète a demandé la même chose. Ça a été un peu plus compliqué pour obéir. Notre aveugle, là, il a obéi simplement. Il témoigne de ce qu'il sait. Mais tout de suite après, on lui demande où est cet homme. Parce qu'évidemment, quand il y a un miracle, sans doute d'autres en voudraient. Et là, il dit « je ne sais ». Il n'invente pas. Il s'en tient à ce qu'il a saisi. Il s'en tient là où on est. Et je crois que c'est une des clés pour avancer. Avec ce qu'on a reçu, avec ce qu'on a saisi. Mais pour lesquels il y a une attestation dans notre cœur. Voilà avec quoi on est témoin. Ne cherchons pas à paraître autre chose ou au-delà de là où on est. Il lui dit « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais. » Reconnaître qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. Eh bien, on ne sait pas tout. Mais lui, il sait tout. Je voudrais également dans ce texte insister, puisque l'aveugle qui voit maintenant le dira, c'est un prophète. Il y a effectivement une dimension prophétique dans cette circonstance. Quand Jésus dit « ce n'est pas », il se saisit de la question des apôtres pour dire « ce n'est pas que ses parents ou lui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées ». Jésus, pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde, il est temps que je travaille pendant qu'il y a la lumière, il annonce ainsi aussi sa mort. Il annonce ce qui va se passer dans ce ministère terrestre et je crois que les apôtres avaient besoin d'être préparés. La dimension prophétique, c'est aussi de dire des choses que peut-être sur l'instant, ceux à qui elles sont adressées ne comprennent pas. Mais ces choses se déposent. Et quand elles surviennent, il y a la révélation. Et c'est ce que Jésus fait à travers cette circonstance aussi pour ses disciples. À d'autres reprises, il sera amené à dire et à dire explicitement pour attirer l'attention de ses disciples, « Je vous parle de ces choses et vous ne pouvez les comprendre maintenant, mais lorsqu'elles arriveront, vous comprenez, vous vous souviendrez. » La dimension prophétique suscite aussi la foi, va donner de l'aliment pour la foi, le moment venu. Jésus sait que son ministère terrestre durera un temps, 3 ans, mais ensuite il prépare déjà les témoins, ceux que tu m'as donnés. Je leur ai donné ta parole. Non pas simplement pour qu'eux croient, mais pour ceux aussi qui croiront à cause de leur parole. Et à travers aussi les miracles que Jésus accomplit, il pose des jalons et il suscite des témoins pour la suite. Ce texte nous parle aussi de l'obéissance de la foi. Paul va dire dans Romains qu'il a été choisi et établi apôtre pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Nous avons là une démonstration d'obéissance de la foi. Il y a une confiance, et c'est déjà l'Esprit de Dieu qui agit dans cet homme, sur les paroles de Jésus. Jésus a fait de la boue, il a oint mes yeux, il m'a dit va, et j'ai obéi. Plus loin dans ce témoignage, après, je dirais, cet entraînement, après ces deux déclarations, c'est moi, puis le récit, le témoignage de ce qui s'est passé, notre homme va être très rapidement. C'est une formation de disciples extrêmement accélérée qu'on voit à travers cet aveugle de naissance qui maintenant voit. Puisque très rapidement, il va être amené en confrontation avec les responsables religieux, avec ceux qui voient et qui savent. Est-ce qu'on se représente cet homme mendiant, là, posé dans la rue, qui va se retrouver, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, devant les responsables religieux, établis tout à fait légitimement sur le peuple d'Israël. Mais il a été entraîné, il l'a déjà dit à ses voisins. Ne vous inquiétez de rien, vous serez amené devant les tribunaux, devant les juges, devant les rois, mais je vous dirai ce qu'il faut dire. Et du coup, il a été entraîné, et le voilà de nouveau devant les pharisiens, lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, il leur dit. Alors avec les pharisiens, il a dit, bah, écoutez, voilà, j'ai rencontré un homme vraiment qui va bien. Non, exactement, il ne fait pas exception de personne. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. C'était pas assez riche, ça, pour les docteurs de la loi. Et là, on voit quelque chose qui se passe. Et je voudrais qu'on mette simplement de côté, qu'on dise, oh, ça, c'est pour les docteurs de la loi. Mais quand on ne veut pas, des fois, accepter, eh bien, on va trouver tout un tas d'arguments. Ils n'ont pas envie de reconnaître ce que Dieu fait. Alors, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Pourtant, il y a déjà dans l'Écriture bien des passages qui nous expliquent que l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Mais ils ne veulent pas. Et ils vont avoir la réponse de cet homme qui vient de voir clair. Ils lui disent, toi que dis-tu, cherche à le piéger. Et lui, avec une simplicité encore, là, c'est vraiment ce qui me marque dans ce texte, parce qu'il y a quelque chose qui a été établi dans son cœur. Du coup, il a, excusez-moi l'expression, il a une autorité. Lui, il dit, c'est un prophète. C'est un prophète. Il a saisi que les actes qu'il posait, vous voyez, ça s'éclaire au fur et à mesure de la marche. La foi, quand on obéit à ce qu'on a saisi, Dieu éclaire de nouvelles choses. Je crois que c'est vraiment ce qui est au cœur de cette parabole. Tout petit peu, c'est moi. C'est à moi qui vient d'arriver cette chose. Je ne peux pas vous témoigner d'autre chose. C'est moi qui viens de vivre une nuit où le Seigneur m'a montré mon péché, ma misère. Je témoigne de ça. Et c'est ce qu'il y a de, j'allais dire de touchant, mais je me méfie de ce mot parce que ça peut être très, très émotionnel. Lorsqu'il y a une vraie conversion, il y a une attestation et tout de suite, la lumière est faite et il y a une libération dans les cœurs. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est les nouveaux convertis qui amènent à l'Église. Nous pouvons le constater. Mais nous ne pouvons pas nous en contenter. Parce que si les nouveaux convertis amènent, c'est parce que la lumière qui est venue dans les ténèbres, le voile n'a pas été recousu. Les choses ne se sont pas encore, la chair n'est pas encore revenue. Donc nous pouvons nous réjouir parce que cela nous montre que c'est bien l'œuvre de Dieu, mais nous ne pouvons pas nous en contenter. Mais laissons-nous interpeller. Donc cette histoire sur ceux qui savent et qui voient, qui sont là les religieux, et c'est très vite fait de dire les religieux c'est les autres, laissons-nous interpeller. Seigneur, est-ce que ce que je crois savoir et voir, c'est vraiment de toi ou est-ce que ce n'est pas en train de me revoiler mon regard ? L'obéissance initiale ouvre de nouvelles portes et nous équipe, nous sommes équipés parce que Dieu va nous équiper si on obéit à ce qu'on a compris. Donc je disais tout à l'heure, je voudrais poursuivre, les témoins obligent aussi celui qui est témoin, qui témoigne par sa parole, mais par ce qui s'est passé dans sa vie, oblige son entourage à se positionner. Ce n'est pas de son fait, mais c'est un fait. La présence de Dieu, la lumière qui vient dans une vie, oblige les autres à se positionner. Et cela est normal parce que chaque homme sait que Dieu existe. Peut-être certains sont surpris. Chaque homme sait que Dieu existe. Donc si la présence de Dieu est venue dans une âme pour la sauver, nécessairement, le miroir reflète. C'est les premiers rayons, mais néanmoins, il reflète. Et nécessairement, c'est pour cela, je dis cela ce matin, que ne soyez pas surpris qu'il y ait des positionnements et des mouvements qui peuvent des fois nous effrayer, que ce soit au niveau familial, au niveau du voisinage. Je n'incite pas là à provoquer. Mais il est normal que si quelqu'un a reçu la vie de Dieu, il est normal qu'il se passe des choses curieuses, surprenantes autour de lui. Je me souviens, je me suis converti, issu d'une famille traditionnellement religieuse, mais engagée dans une religion, dans la religion catholique en l'occurrence, mes frères et sœurs, notamment mes sœurs qui étaient très engagées, d'un seul coup, se sont souvenus de tout un tas de choses. Et mes frères qui n'étaient pas engagés, mais alors du tout, d'un seul coup, ont retrouvé tout un tas de vieilles valeurs, comme pour amener des oripeaux pour lutter. Il y avait danger. Il y avait danger parce que à partir du moment où la vie de Dieu est là, c'est la panique à bord, chez les voisins, dans la famille, chez les parents de cet aveugle. C'est la panique. C'est la panique. Vous allez me dire, mais ils auraient dû se réjouir. Le fils, vous vous rendez compte, pour un papa, une maman, un fils aveugle de naissance, et peut-être 30 ans, 40 ans après, ce fils voit, mais on voit ça, on se dit, mais il devait sauter, mais pas du tout. Pas du tout. Ils ont bien du mal à dire. C'est notre fils. C'est presque, on s'excuse, c'est notre fils. Mais on sait quand même que c'est notre fils, ils ne pouvaient pas dire autrement. Ils disent, c'est intéressant le texte, hein. Nous savons que c'est notre fils. Alléluia. Et qu'il est né aveugle. Et puis ça s'arrête là. Parce qu'ils disent, mais comment il voit maintenant? Qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Alors là, je n'interprète pas, je lis simplement la parole. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Ça veut dire qu'ils ont reconnu le miracle. Et ils savent que c'est Jésus qui l'a fait. Et ils savent aussi son toucher. Mais il y a une peur qui est là. Il y a une peur qui est là. Et du coup, ils ne vont pas pouvoir aller plus loin. Et ils vont laisser leur fils se dépatouiller. Dieu permet cela pour l'instant. Mais donc, dans la famille, des choses sont secouées. Je donne un témoignage personnel parce que c'est vraiment ça. Mon fils aîné était dans des choses terribles. C'est déjà difficile. Dans l'alcool, dans la drogue, dans la débauche. Et un jour, Dieu intervient. En une nuit, sa vie change. De A à Z. En un mois, sexe, cigarette, tout, finance, remise à niveau. Vous êtes dit, peut-être, la famille, les sœurs, j'ai vu des sœurs qui étaient... L'angoisse quand le frère aîné ne rentre pas parce qu'il est en boîte, etc. Ils ont dû dire sauter des mains. Non. Non. Pas à ce moment-là. Non. Non. Oh, il était fragile. Oh, ben, si ça lui fait du bien. Oui, je témoigne. J'invente pas. C'est normal. C'est normal parce que ça bouscule toute une vie. Toute une vie. Toute une famille. Une conversion... Ça bouscule toute une famille. Mes frères et sœurs, quand Dieu commence une œuvre, il la conduit jusqu'au bout. Alors ça bouscule une famille. Mais persévérons. Prions pour nos bien-aimés. Prions pour nos bien-aimés. Le Seigneur entend ces prières. Prions pour nos bien-aimés. Ça peut bousculer fort. Je me souviens d'une situation. Ma propre fille, parlant de son frère, dit « Avec vos trucs, vous verrez bien le jour où il se sera suicidé. » Je peux vous dire que là, j'ai dit « Seigneur, 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 tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. » Ça bouge dans une famille quand Dieu entre. Ça bouge dans une famille quand Dieu entre. Frères et sœurs, comme cet aveugle, je ne sais pas si cet homme est un pécheur, mais ce que je sais, c'est que je vois. Ce que je sais, c'est que Christ est ma vie. Ce que je sais, c'est qu'il a pardonné mes péchés. Ce que je sais, c'est qu'il peut purifier. Ce que je sais, c'est qu'il peut donner à celui qui a une vie débauchée, une vie pure. Ce que je sais, c'est qu'il peut donner à celui qui a tué, pour redonner la vie. Ce que je sais, c'est qu'il peut donner à celui qui a volé, pourvu qu'il s'en détourne. De vivre une vie honnête, de travailler, de pourvoir à ses besoins avec ses mains et avoir de quoi donner. Ce que je sais, c'est ce Dieu-là auquel je crois. On n'a pas su tout le premier jour. Mais qu'avec ce qu'on a reçu le premier jour, on ne le tienne pas pour rien. Pardon, Seigneur, pour ma part, d'avoir peut-être voulu avoir plus avant, Seigneur, d'avoir reconnu ce que tu as donné. Il donne à chacun comme il veut. Il est souverain dans ses dons. Il est souverain dans ses dons. Il est souverain dans ses dons. Il a fait de cet aveugle son témoin. Quand de nouveau, les religieux, je ne le dis pas avec mépris, frères et sœurs, mais de nouveau, parce qu'ils sont enfermés dans leur raisonnement, c'est complexe parce que c'est la loi de Moïse qu'ils ont quand même, qui est prêchée depuis 1500 ans dans les synagogues, ce n'est pas rien. Ne jugeons pas, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Ne prenons pas ces versets comme une ironie de la part de l'aveugle. Il dit simplement, je crois qu'il est, on voit ce qui précède, il est simple, il est vrai. Il y dit, je suis surpris parce que vous êtes des docteurs de la loi et je vous respecte. Et je sais que vous nous avez enseigné. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et là, il commence à les enseigner. Ils ne se trompent pas, les docteurs. Oui, il donne un enseignement, trois points. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce, premier point. Deuxième point, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. On peut effectivement relire l'Ancien Testament. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ce que Jésus a déjà dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et là, il ne supporte pas. Il y a un nouvel enseignement qui arrive avec Jésus. Et cet homme-là, oui, c'est vrai, ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Oui, parce que c'est ça, Jésus-Christ. Quelqu'un qui est né tout entier dans le péché, et nous sommes tous nés tout entiers dans le péché, il peut changer sa vie. Et s'il lui plaît à Dieu d'enseigner par un homme qui a été tout entier dans le péché, c'est son choix. C'est son choix. Il enseigne alors qu'il n'est pas encore reconnu Jésus comme le Christ, ça vient juste après. Et c'est intéressant. Jésus laisse se dérouler tout ça. Il aurait pu venir au secours de son petit miraculé. Non, il laisse se dérouler tout cela. Il faut qu'il y ait cette mise à l'écart. C'est la parole nous le dit. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu ? la rencontre intime. Nous assistons à la rencontre, frères et sœurs, dans l'intimité. Tu as cru, tu as saisi quelque chose ? Jésus t'amène. Crois-tu au Fils de Dieu ? Et vous, qui dites-vous que je suis ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Notre aveugle qui vient de voir, il pose encore une question. Et qui est-il, Seigneur ? Afin que je croie en lui. Il est prêt. Son cœur est prêt. Je crois vraiment que le cœur de cet homme a été travaillé. Il est prêt. Mais il ne veut pas se tromper. Il pose une question toute simple. Et qui est-il ? Tu l'as vu. C'est la rencontre. Je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. L'affaire est réglée. Et voyez-vous, il est témoin. Et tout de suite, c'est la fin de ce texte, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, dit Jésus, pour que ceux qui ne voient point voient, ça on vient de l'expliquer, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles. » Eh bien moi je crois que parmi les pharisiens, certains ont été touchés ce jour-là. Certains ont été touchés ce jour-là. Ils ont été ébranlés. Il se risque une question, est-ce que c'est pour nous ? C'est compliqué, quand on est dans le service et le ministère, de dire, oh, je suis un peu ébranlé. Eh bien, ils osent. Ils osent, est-ce que c'est pour nous ? Eux qui enseignent toutes les semaines dans la synagogue. Et là aussi, je vais vous dire, c'est une parole prophétique. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Alors la parole prophétique, je trouve, que ceux qui voient deviennent aveugles. C'était une parole adressée aux pharisiens, aux enseignants, aux scribes. Eh bien, vous savez que cette parole prophétique, elle s'est accomplie. Vous savez avec qui ? Avec Saul de Tarse. Saul de Tarse était de ceux qui voyaient et qui savaient. Eh bien, il est devenu aveugle. Dieu l'a saisi sur le chemin. Dieu a plusieurs façons de faire. Et il a saisi Saul de Tarse, qui était plein d'assurance, plein d'arrogance, zélé, selon la loi de Moïse. Il a tombé sur la route de Damas, et il a été aveugle 3 jours. Et frère, c'est peut-être ce frère-là qui est venu lui rouvrir les yeux, qui l'a enseigné. Mon frère Saul, maintenant, recouvre la vue, sois baptisé, sois rempli du Saint-Esprit. Que ceux qui voient ne voient plus. Paul a eu besoin, et nous avons tous besoin. C'était au début de mon introduction de mon message, et finalement ce sera ma conclusion. Nous avons besoin d'être confrontés, de rentrer en nous-mêmes. Et là, bien sûr, on décrit la rencontre initiale. Mais je crois que jusqu'au bout, nous avons besoin de retrouver cela. Seigneur, cette première rencontre, il y a un texte qui dit « N'oublie pas la femme de ta jeunesse ». C'est un texte, pour diverses raisons, dans ma vie m'a bouleversé, m'a écrasé par moments. Mais je crois que le Seigneur veut nous dire « N'oublie pas comment tu m'as rencontré ». Parce qu'il y a dans cette première rencontre, pour toi, pas pour le voisin. Cet aveugle de naissance, ce n'est pas Saul, ce n'est pas Pierre. Et Jésus, il sait comment faire avec chacun de nous. Que ce matin, on puisse se souvenir. Il y a une chose qui était commune, c'est que nous étions ténèbres. Et que maintenant, nous sommes appelés à être lumière et à refléter sa lumière. Ça, c'est sa chose que nous avons commune. Mais la manière dont le Seigneur a débusqué nos ténèbres, elle est différente pour chacun. Revenons, souvenons-nous comment il nous a rencontrés. Et ce qu'il nous a donné, parce qu'il a à tous, il a donné quelque chose. Ne cherchons pas autre chose. En tout cas, ne convoitons pas autre chose que ce qui nous a été donné. Il donne comme il veut à chacun, comme il veut. Nous prions, et puis, je vais qu'on reprenne ce chant, que va reprendre l'équipe de louanges. Il éclaire nos ténèbres, je crois vraiment. C'est un Dieu puissant, un Dieu de gloire. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce, je te bénis de ce que tu es venu éclairer nos ténèbres, Seigneur. Nous étions sans espoir, sans chemin, Seigneur, nous errions. C'est normal pour un aveugle, Seigneur, qui veut se déplacer, qui veut conduire sa vie. Seigneur, pardon aussi parce que tu es aveugle. Je reconnais, Seigneur, qu'avant de te connaître, tu conduis d'autres aveugles, Seigneur. Alors, Seigneur, les fruits ne sont pas beaux, mais Seigneur, tu es venu et tu as éclairé nos ténèbres. Je te prie ce matin, Seigneur, que des ténèbres soient éclairées, que des hommes et des femmes aveugles de naissance, parce que, Seigneur, dès la naissance, nous sommes séparés de toi, parce qu'il y a eu la chute. Mais Seigneur, tu veux rétablir. Ta lumière, elle jaillit toujours au sein des ténèbres, Seigneur. Tu n'en as pas fini parce que c'est encore le temps de la grâce. Alors je te prie ce matin d'éclairer les cœurs. Et pour ceux, Seigneur, qui te connaissent, qui ont fait cette première rencontre, qui ont eu ce face-à-face, cette intimité avec toi, nous voulons nous souvenir de ce moment, non pas pour une nostalgie, mais pour nous rappeler ce que tu nous as dit, ce que tu as déposé à ce moment-là, Seigneur. Au moment où tu nous as fait naître d'en haut, Seigneur. Je te loue et je te bénis, Père. Amen.